BW. Droits et libertés.
Comment les hommes sont-ils devenus des guerriers ? Pourquoi les femmes se sont-elles, petit à petit, laissées infériorisées, alors qu'elles constituent la majorité de l'humanité ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre qui expliquent que les humains aient eu l'idée de hiérarchiser les sexes ? Nous parlons de tout cela et de bien d'autres choses dans ce second volet de notre entretien avec la préhistorienne Marilène Patoumatis, directrice de recherche au CNRS. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde.
Oui, bonjour.
Bonjour madame, c'est Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle.
Oui.
Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS en France. Donc, ça veut dire que vous êtes historienne de la préhistoire. Et vous dites dans plusieurs interviews que vous cherchez à comprendre l'origine de certains de nos comportements, de l'émergence un petit peu aussi de stéréotypes peut-être. Est-ce que vous avez réussi à mettre en valeur des mécanismes qui ont permis que la femme, petit à petit, soit reléguée à un rang inférieur par les hommes et que les femmes, qui étaient pourtant sans doute déjà en majorité dans l'humanité, l'aient acceptée.
Je pense qu'il y a quelques grands bouleversements. Bien sûr, ce n'est pas partout là aussi, parce qu'il y a des sociétés, notamment en Afrique, notamment en Asie, qui sont restées longtemps matrilinéaires, où la femme avait quand même un rôle important dans la filiation, dans la transmission, les transmissions des savoirs, des savoir-faire. Donc, ça ne s'est pas perdu partout au même moment. On voit très bien qu'au fil du temps, avec notamment au néolithique, l'arrivée de l'agriculture, l'élevage qui remplace ça, etc., le fait qu'il y a des biens, le fait que d'un seul coup, là aussi, on a besoin de protéger ces biens. Donc, les femmes, c'est peut-être elles, au départ, qui ont compris le mécanisme de la domestication des plantes, peut-être prise par les enfants, par cette activité majeure, parce qu'il y a cette longue chaîne, hein, du labourage jusqu'à broyage des grains, et on voit qu'elles ont fait ça, on a déterminé sur leurs os qu'elles ont pratiqué ces activités. Donc, si vous voulez, elles étaient prises, elles ont laissé pour les biens à sauvegarder aux hommes. Et les hommes sont devenus des guerriers, ont été élevés, éduqués, en fin de compte, dans ce sens, donc sont devenus des guerriers. On voit très bien aussi que nous étions dans une croyance où c'était beaucoup de divinités féminines, beaucoup de déesses mères. Et d'un seul coup, on va passer petit à petit à des divinités masculines. Donc, on voit qu'il y a vraiment ce changement qui est dû donc au départ à un changement d'économie. Production a remplacé la prédation. Ensuite, ça a provoqué des changements de structure sociale. Donc, modifier les rapports entre individus. On va voir apparaître des tombes riches, des tombes pauvres, donc des inégalités, ce qu'on ne voyait pas avant. Et on va voir apparaître justement aussi ce côté-là vraiment genré des activités et aussi le fait que d'un seul coup, pour cette transmission de ses biens, l'homme va regarder de plus près sa descendance. C'est-à-dire que la femme va commencer à être enfermée, ce que j'appelle, moi, sa sexualité. Là, l'homme doit la contrôler parce que s'il veut transmettre ses biens, il faut que ça soit vraiment à sa descendance. Une femme, on sait toujours,
toujours la mère. Qui est la mère.
Les hommes, c'était voilà.
Le père, il y a un doute.
Et donc, si vous voulez, surtout à ces époques-là, hein, on n'a pas. Donc, c'est des moments, je pense, qui ont été importants. Par exemple, on voit très bien ceux qui vont arriver dans 3-4 000 ans, qui vont arriver des steppes d'Asie et tout ça, qui vont vraiment là amener là aussi un système très patriarcal parce que c'est quasiment que des hommes qui se déplacent, etc. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs qui se sont mis ensemble pour que petit à petit, dans une grande partie du monde, en fin de compte, il y ait la subordination des femmes.
Mais bon, ça peut expliquer la volonté des hommes de se présenter comme supérieurs, mais ça n'explique pas l'acceptation des femmes de ce rôle secondaire.
On en arrive à ce que la Boétie appelait la servitude acceptée. On restreint certaines libertés, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est lent. Je crois qu'on oublie aussi le facteur temps. Comme ceux qui en profitaient, etc., voyaient que c'était très bien, quoi, c'est pour eux et tout. Et quand, petit à petit, on leur a laissé prendre certains pouvoirs, notamment le pouvoir de l'extérieur, hein, puisque les femmes étaient plutôt cantonnées à l'intérieur, hein, dans la maison, dans le domus. Et après, à un moment donné, quand on est né dans ça, on se pose même plus la question. Moi-même, quand j'ai fait un ouvrage sur Lascaux, et ben dans cet ouvrage, j'avais un ami, un illustrateur, c'est un ami, celui qui a fait les dessins. Moi-même, je n'ai mis que des hommes en train de peindre. Donc là, je ne le ferai plus parce que j'ai réfléchi sur ça. Et vous voyez, parce qu'il y a des choses...
On intègre, oui, une vision imposée.
On ne se pose même pas la question. Mais y a pas, pourquoi ça serait comme ça? Il n'y a pas de raison que les femmes n'aient rien inventé dans l'histoire. Voilà. Et les personnes, évidemment, qui profitent de ce système, une fois qu'elles l'ont, vous pensez bien qu'elles ne vont pas le laisser. C'est les privilèges. Et puis, comme pour tout, vous savez, il a fallu justifier. Ça s'adapte dans la nature de l'humain. Si vous voulez oppresser quelqu'un, il faut justifier quand même.
Ouais, part, bon, comme la monarchie de droit
sadiques,
divin.
Voilà, ouais. À part des sadiques, des assassins. Bon. Mais sinon, comment vous allez justifier la domination? Ben, vous allez dire que la personne est inférieure.
Par voilà. Nature.
Exactement. Et donc, vous allez faire des tas de mesures qui sont nulles, parce qu'elles ne tiennent pas compte de plein de critères, de facteurs. Mais vous avez fait parce qu'il faut quand même que quelque part vous légitimiez cette subordination. Regardez la perception des sorcières. Elle est complètement différente maintenant. Mmh. Et pendant longtemps, c'était quoi? Alors que c'était quoi la plupart des sorcières? Pas toutes, mais la plupart, la grande majorité. C'était des femmes qui avaient des connaissances pour pouvoir les tuer. Donc on a dit c'est Satan, c'est machin, c'est tout. Vous voyez? Donc il y a toujours, il faut justifier. Et à un moment donné, on ne se pose même plus la question. On ne se pose même plus la question.
Mais alors maintenant qu'il y a cette prise de conscience progressive jusque dans la science, jusque dans l'histoire, comment propager cette prise de conscience jusqu'aux individus en bas de la société? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est l'éducation? Comment progressivement partager ce savoir?
Ça commence par l'éducation, par les mères, pas seulement les pères. Les mères aussi doivent faire attention quand elles éduquent leurs fils, par exemple, ou leurs filles. Dès le départ, vous voyez, c'est important. Parce que bien sûr qu'il y a l'école, c'est très important aussi. Mais je pense que l'éducation est fondamentale. Et l'éducation, c'est souvent dans beaucoup de pays et tout. C'est souvent les femmes qui sont surtout dans la petite enfance. Et là, je pense que c'est très important de ne pas faire des différences de supérieur et d'inférieur entre un garçon et une fille. Je pense que là, c'est très, très important. Et montrer, je pense, d'une façon un peu ludique aussi, de montrer que les femmes sont capables de faire telle et telle activité. Et je pense qu'en ce moment, c'est assez clair, quand vous voyez qu'on a commencé à ouvrir des métiers supposés masculins aux femmes, elles sont très bonnes dans ce métier-là. Et les hommes aussi, d'ailleurs, il y a des hommes qui sont venus vers des métiers plutôt féminins. Donc je pense, si vous voulez, que c'est tout un travail, et aussi, bien sûr, les médias, ça c'est très, très, très important. Vous savez très bien que la télévision et maintenant Netflix et tout ça crée aussi quand même des mythes. Hein. Des mythes.
Bien sûr.
Et donc, c'est très, très important là aussi de pouvoir remettre ça. Et tout ce qui se passe actuellement, je crois que c'est très bien.
Et peut-être aussi un dernier, tout dernier point cette fois. Il ne s'agit pas de renverser la vapeur et de créer une supériorité féminine. Dans votre propos, c'est de rétablir l'équilibre. Hein.
Exactement, c'est-à-dire que moi je pense, si vous voulez, que ça suffit. Là, on a quand même eu des millénaires de patriarcat, on va peut-être changer de système. Mais ce changement de système doit se faire ensemble. Pour moi, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que je pense qu'il faut justement amener à faire comprendre qu'il n'y a pas de justification à inférioriser une femme. Elle a subordonné. Il n'y a pas. Il n'y a aucune justification. Et c'est ça pour l'amener, vous voyez, petit à petit, pour qu'après ce système, voilà, qu'on puisse trouver ensemble, parce que si on part au combat la moitié de l'humanité contre l'autre moitié de l'humanité, là, ça va mener, je ne sais pas à quoi. Ça peut être quelque chose qui soit moins rapide et moins positif. Donc je pense qu'en étant toujours en étant quand même très très ferme hein, sur les convictions, sur l'inacceptable maintenant. Rien qu'en dénonçant l'inacceptable, il y a des inacceptables maintenant qui étaient acceptés il y a 20 ans. Hein. Donc vous voyez que les choses changent et en montrant, en faisant de la pédagogie, quoi, en amenant à faire comprendre que voilà que non, c'est pas normal. Et surtout en faisant ce travail sur le passé lointain, en montrant que probablement dans plein de sociétés, ben, le patriarcat n'existait pas. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas originel, qu'il n'est pas intrinsèque, qu'on n'est pas fait, programmé pour faire telle et telle, telle autre, hein, à part la reproduction. Donc, je pense que ça peut apporter, puisque si c'est culturel, si ça a été amené comme ça au cours de l'histoire, ben, on peut changer. Ce n'est pas écrit dans le marbre, quoi.
Ouais, c'est une option, un moment de l'histoire, un choix. C'est une réflexion qu'on peut d'ailleurs étendre à d'autres domaines, évidemment, comme le racisme.
Bien sûr, mais vous savez, c'est du racisme quelque part, enfin du racisme qu'on ne peut pas employer ce terme, mais c'est un processus qui est le même, l'infériorisation, ça peut être l'infériorisation, bien entendu, en fonction des religions, en fonction des couleurs, mais aussi en fonction du sexe, c'est le même processus. C'est toujours de vouloir catégoriser et en plus, et surtout, et c'est là le drame, hiérarchiser.
Oui.
Moi, vous savez, la différence, moi je suis contente que j'ai une grande diversité. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai fouillé beaucoup en Crimée, etc. Là, j'ai parce qu'en ce moment, on est un an qu'on est à l'arrêt.
Dans le désert des Kalahari. Ouais,
voilà. Donc si vous voulez, c'est passionnant, c'est diversifié, et tant mieux. Mais je dis, c'est différent, point. On met le point. C'est tout, pas de savoir plus, moins, meilleur, moins bon. Et c'est ça le drame, c'est la hiérarchisation. Et je pense que si on arrêtait de vouloir hiérarchiser, à mon avis, toute l'humanité s'emporterait mieux.
Un joli mot de la fin. On aura sans doute l'occasion de reparler de vos travaux chez les San de Namibie une autre fois. Merci beaucoup, Marie-Hélène Patou-Mathis.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à la préhistorienne Marie-Hélène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS et autrice, entre autres ouvrages, d'un livre paru en 2020 aux éditions Alary, « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Pour réécouter le premier volet de notre entretien ou pour podcaster « Droits et libertés », allez voir du côté de notre site internet dw.com/français, rubrique « Nos podcasts ». Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.